C'est une petite lueur qui illumine, quelque chose de faiblard, de discret, une petite lanterne, un quinquet. Mais sur Paris endormi, une grande lueur s'étale, une grande lueur grimpe sur la tour. Une lumière toute crue, c'est la lanterne du bordel capitaliste, avec le nom du taulier qui brille dans la nuit. Citroën, Citroën, c'est le nom d'un petit homme. Un petit homme avec des chiffres dans la tête. Un petit homme avec un drôle de regard derrière son lorgnon. Un petit homme qui ne connaît qu'une seule chanson, toujours la même. Bénéfice net, une chanson avec des chiffres qui tournent en rond. 300 voitures, 600 voitures par jour. Trottinette, caravane, expédition, autochine, camion. Bénéfice net, millions, 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 millions. Citroën, Citroën. Même en rêve, on entend son nom. 500, 600, 700 voitures, 800 tout camions, 800 tanks par jour, 200 corbillards par jour, 200 corbillards. Et que ça roule. Il sourit, il continue sa chanson. Il n'entend pas la voix des hommes qui fabriquent. Il n'entend pas la voix des ouvriers. Il s'en fout, les ouvriers. Un ouvrier, c'est comme un vieux pneu. Quand il y en a un qui crève, on n'entend même pas crever. Citroën n'écoute pas. Citroën n'entend pas. Il est dur de la feuille pour ce qui est des ouvriers. Pourtant, au casino, il entend bien la voix du croupier. 1 million, monsieur Citroën, 1 million. S'il gagne, c'est tant mieux. C'est gagné. Mais s'il perd, c'est pas lui qui perd. C'est ses ouvriers. C'est toujours ceux qui fabriquent qui, en fin de compte, sont fabriqués. Et le voilà qui se promène à Deauville. Le voilà à Cannes qui sort du casino. Le voilà à Nice qui fait le beau sur la promenade des Anglais avec un petit veston clair. Beau temps aujourd'hui. Le voilà qui se promène, qui prend l'air. À Paris aussi, il prend l'air. Il prend l'air des ouvriers. Il leur prend l'air, le temps, la vie. Et quand il y en a un qui crache ses poumons dans l'atelier, ses poumons abîmés par le sable et les acides, il lui refuse une bouteille de lait. Qu'est-ce que ça peut lui foutre, une bouteille de lait? Il n'est pas laitier, il est Citroën. Il a son nom sur la tour. Il a des colonels sous ses ordres. Des colonels, gratte-papier, garde-churme, espions. Les journalistes mangent dans sa main. Le préfet de police rampe sur son paillasson. Citron, citron. Bénéfice net, millions, millions. Aussi, le chiffre d'affaires vient à baisser. Pour que malgré tout les bénéfices ne diminuent pas, il suffit d'augmenter la cadence et de baisser les salaires. Baisser les salaires. Mais ceux qu'on a trop longtemps tondus en caniche, cela garde encore une mâchoire de loup pour mordre, pour se défendre.
Pour attaquer, j'ai pas envie de sauter,
faire la grève.
J'ai pas envie
la grève.
D'une balle.
La grève.
Je
la grève.
Préfère exister. Même si c'est pour que dalle, j'aime bien respirer, j'aime bien me sentir sale, j'aime avoir de la chance et me faire embrasser, mais bien sûr si j'y pense, tout ça n'a pas grand sens, mais bien sûr.
qu'au fond, une bonne partie des gens se résignent à ce que ce champ politique retourne à son, à sa tradition. Et on ne peut pas en attendre beaucoup, finalement.
Il ne faut pas être trop exigeant.
Il y a les limites de l'action sont très puissantes. C'est déjà pas mal qu'on ait la liberté de voter, la liberté d'expression, etc. Dans le monde on a, il faut abandonner donc il y a eu une substitution d'une sorte de moralisme qui a pris le nom de droit de l'homme et qui était un moralisme généralisé, en même temps que, au fond, la politique, eh ben, c'était le bazar ordinaire. Quoi. Enfin, c'était les partis qui se disputaient le pouvoir, plus ou moins, la droite et la gauche, etc. Des choses.
Parfois, ça s'est rejoint avec la politique humanitaire, par exemple.
Exactement. Et il y a eu un phénomène qui, moi, l'expérience m'apparaissait surtout d'une extraordinaire médiocrité, d'une chose qui n'était pas capable d'éveiller l'enthousiasme, l'engagement des jeunes générations.
La mort
du concept de résistance.
Oui. Il y a un certain catéchisme. Tout à fait, je
peux concevoir que donc ça devienne aussi un moteur, quelque chose de complètement vide. Mais je dirais que peut-être ce qui est plus profond de ça, de cette position, c'est que le problème du terme, de la terminologie résistance, c'est qu'elle est quand même réactive dans son vocabulaire même. Et donc, il faudrait peut-être trouver un terme qui soit plus de l'ordre, qui accentue plus le phénomène créateur que le phénomène de rejet, de mise à distance, qui reste de l'ordre de la réaction.
Mais à un moment de prémisse idéaliste même. De la lumière,
oui,
de la lumière.
Oui, tout à fait.
Ou encore que la résistance des lucioles.
Ah,
c'est beaucoup en lumière. Autant dans le nazisme que dans le second, dans la démocrature.
Mais bon, c'est un concept extrêmement mobile aussi, extrêmement plastique, puisque résistance, c'est toujours dans un jeu par rapport à une situation qui est bloquée. Donc c'est quand même ce qui catalyse un changement, ce qui permet d'innerver l'état de choses par un principe justement d'oxygène, donc résistance, c'est une force plastique pour moi. Donc le problème, effectivement, c'est que tout le monde peut s'en accaparer, l'extrême droite, l'extrême gauche, tout le monde peut se prétendre le résistant par rapport à un état de choses qu'il estime insupportable. Mais bon, la délimitation terminologique que je me suis donnée, c'est que quand même d'insérer résistance dans un champ sémantique qui le fasse directement consonner avec libération des puissances de vie. Donc il est difficile alors de soutenir, à moins d'être totalement captieux, que des conduites, des agissements qui diminuent les puissances d'exister soient de la résistance. Donc je crois qu'on peut vraiment prendre un critère intensif et vitaliste et dire ce qui est à la hauteur du nom de résistance. C'est ce qui augmente les puissances de vie, ce qui génère des puissances d'émancipation. Et à partir de ce critère, je pense qu'on évite de tomber dans les simulacres de résistance, ou dans les usurpateurs de la résistance. Un peu comme chez Badiou, il y a toujours cette volonté, surtout dans les traitements encore après,
Un moment où les individus et les groupes cessent d'avoir peur, et c'est ce qu'on m'a répété tout au long du voyage, alors que les tueurs et les tortionnaires sont toujours là, sont toujours dans l'appareil d'État, sont toujours dans la police et continuent à sévir. Les gens n'ont plus peur, ils parlent et la parole est libérée. Ça, c'est une chose qui n'existait pas avant. Et les gens me disent avec une espèce de surprise ravie, on n'a plus peur. Voilà. Et donc, c'est des moments comme ça qui sont décisifs dans l'histoire.
Girard.
Une des difficultés pour réfléchir sur la question de la résistance, c'est le caractère incroyablement polysémique du mot. Il suffit de consulter un dictionnaire pour voir.
D'envisager la possibilité
qui caractérise. ceci étant, la
résistance d'un excès,
la dimension, elle peut prendre une dimension très fréquemment collective. Et je pense qu'il y a peut-être une différence de nature
d'un excès
entre les résistances dans lesquelles
vis-à-vis
on engage le risque de sa vie
vis-à-vis
et les résistances,
vis-à-vis de quoi,
quels que soient les inconvénients lourds que l'on risque, ce n'est pas sa vie nue qu'on risque. Il n'y a pas d'hierarchie hein, dans ces deux types d'engagement, simplement je veux mettre l'accent sur la façon dont les périodes historiques peuvent donner des sens un petit peu différents. Puis le deuxième élément, moi, qui m'avait beaucoup intéressé, c'est le caractère un petit peu individuel des résistances. Et si on s'intéresse un petit peu à l'histoire de la pensée, eh bien on peut trouver une belle galerie de grands auteurs résistants dans l'ordre de la pensée. Pour moi, mais ce n'est pour moi, je pense toujours à Diogène Lucini, qui m'apparaît comme le premier résistant à l'hypocrisie ambiante, aux fausses idées, aux idées de tout le monde, etc. Et puis, comme tout n'est pas dans la philosophie, mais aussi dans la littérature, je pense à un auteur turc qui s'appelle Yaşar Kemal, et qui avait écrit beaucoup d'ouvrages, mais notamment un qui m'avait frappé, qui s'appelle Mehmed Le Mince. Et à un moment, dans Mehmed Le Mince, qui est un bandit rural, une sorte de guingouin de l'Est méditerranéen, si on veut, on demande, mais qu'est-ce que c'est qu'un résistant? Qu'est-ce que c'est qu'un Mehmed Le Mince? Et la réponse est la suivante, c'est quelqu'un qui a parlé contre, donc une voix.
Olivier ?
C'est une chose à laquelle on est vraiment à distance. Et là, il y a des gens qui se sont réellement insurgés sur une base de refus. Ouais. Mais ça s'est propagé comme une traînée de poudre.
Avec ce mot liberté.
Ouais, c'est vraiment l'idée que c'était devenu proprement insupportable et qu'il a suffi d'une situation qui arrive aux confins du pays, en tout cas pour ceux qui étaient dans le Djebel Nafusa qui est à l'ouest du pays, pour qu'eux-mêmes se mettent à renverser les icônes du régime. Un des premiers actes de manifestation, c'est d'avoir renversé le livre vert.
Et du domaine de la foi. Du livre vert.
Les résistances font partie du
thème. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez ? Si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira, est-ce que vous pourriez supporter cette histoire ? Néanmoins, ce n'est qu'un acte de foi. Le comble du comble, c'est que vous n'en êtes pas sûr. On n'aurait pas un ou une qui vivrait jusqu'à 150 ans, mais enfin quand même. C'est là que la foi reprend sa force. Alors au milieu de ça, vous savez, ce que je vous dis là, moi, c'est parce que... Eh bien, parce que j'ai vu ça, hein. Il y a une de mes patientes, il y a très longtemps, de sorte qu'elle n'entendra plus parler. Hein. Sans ça, je ne raconterai pas son histoire. Elle a rêvé un jour comme ça que l'existence rejaillirait toujours d'elle-même. Le rêve pascalien, une infinité de vies se succédant à elle-même, sans fin possible. s'est réveillée presque folle. Elle m'a raconté ça, hein. Bien sûr que... Je trouvais pas ça drôle. Comment voilà. La vie. Ça, c'est le solide. C'est sur quoi nous vivons, justement. Moi, la vie, alors, dès qu'on commence à en parler comme telle, la vie, bien sûr. Nous vivons, ça, c'est pas douteux. Hein. S'en aperçoit même à chaque instant. Bon. Il s'agit de la pensée. Prendre la vie comme concept.
Caduque et étroit. Qui sont les conversations que j'entends quand je suis dehors dans les terrasses de café, qui ne sont réduits qu'au travail, qu'aux histoires d'amour, qu'aux feuilles d'impôts. Il s'agirait d'aller dans l'excès de...
Nous sommes tous, chérie Bibi, au théâtre, criant devant Oedipe. Voilà un type dans mon genre.
Solaire. Ou alors l'excès du désespoir. Les deux pôles sont opposés, mais ils peuvent se rejoindre.
Nanterre, Gilles Deleuze s'explique sur l'anti-Édipe devant des étudiants.
En allant chez le psychanalyste, ils vont se faire la lettre édipianiste. Ils vont se faire faire un papa, maman, petit frère, tout ça, qui se font rendre gâteux, alors c'est peut-être pas plus mal parce qu'ils vont mal avant, mais que c'est une espèce de gâtisme généralisé, et que, en tout cas, ils y vont, mais ils n'y croient plus. Alors évidemment, un livre qui leur dit, en effet, Édipe, c'est une honte, c'est une blague, ils sont contents parce que c'est des choses qu'ils savent, ou c'est des choses qu'ils ont envie de dire, des choses qu'ils ont envie d'entendre dire. Ce qui ne les empêche pas de se faire analyser, on en a encore pour 10 ans, ils sont analysés, ouais. Mais j'ai l'impression que ça prendra de moins en moins. Je veux dire que, oui, le mérite là, de ce livre, c'est un plus grand mérite que si c'était un livre nouveau. Nous, on n'a aucun souci de faire du freudisme ou pas du freudisme, de se situer même par rapport à la psychanalyse. On a un grand souci de dénoncer, même pas les mauvaises applications de la psychanalyse, de dénoncer la psychanalyse tout court, avec le sentiment que plus les types sont jeunes, plus et mieux qu'ils comprennent ça. Les types qui sont jeunes, ils savent très bien que leurs problèmes ne passent pas entre papa et maman, ni avec la castration.
Monsieur, faut te dire ceci, c'est que
En France, le type, il est individuel. Il travaille pour lui, il pense qu'à lui.
C'est la folie des petitesses. Ma petite maison, mon petit jardin, un bon petit boulot, une bonne petite vie bien tranquille.
Il a son salaire, tu vois, il travaille pour lui, le type, il bosse, hein. Alors, il amasse du pognon, tu vois, il se prive sur certaines choses, tu vois. Il veut jouer un peu cette espèce de type, tu sais, qui a du pognon, qui a du fric, tu vois. Le type, c'est un pauvre type. C'est un pauvre type, absolument. Nous autres, on va à la cantine. Tu sais, moi, je vais à la cantine, mais moi, je m'en fous, j'ai absolument rien. Je suis un pauvre mec, j'ai absolument rien, je bouffe. À la cantine, chez Roland, tu vois, les types, ils sont à table, tu sais. Ils bouffent juste un hors-d'oeuvre, tu vois. C'est tout. Et un morceau de pain, c'est tout. Mais ils ont ce truc. Ils ont leur bagnole, comme tu vois, comme tu viens de dire à l'instant, ils ont leur bagnole. Alors, tu te figures, tu te dis, mais quand même, merde, les mecs, en France, le prolétaire en France, il a du fric. Il a du fric, il gagne beaucoup de pognon. Il peut se payer une voiture, il peut se payer son appartement. Ne crois pas ça. Le type, c'est un malheureux, c'est un pauvre type. Crois-moi. Je vis avec ces gens. Je vis avec eux, c'est des pauvres types.
On vit dans la cuisine. C'est la plus petite pièce. En dehors des festivités, la salle à manger n'ouvre ses portes qu'aux heures du ménage. C'est la plus grande pièce. On y garde précieusement les choses précieuses.
C'est de la frime, tout ça, c'est de la rigolade, le mec. Parce que, pourquoi c'est de la rigolade? C'est de la rigolade parce que le lundi, il va recommencer comme un pauvre type dans une usine crado craspect. C'est-à-dire, quand tu le vois dans une usine, tu vois à l'extérieur, c'est plus le même mec. Tu vois?
La vie dont le futur a déjà un passé et le présent un éternel goût d'attente. Vie passée à attendre la paye, vie pesée en heures de travail, vie riche en heures supplémentaires, vie pensée en termes d'assistance, de sécurité, de retraite, d'assurance. Vivant qui achète tout au prix de détail et qui se vend eux au prix de...
Allô, bonjour monsieur, ne nous énervons pas. Nous sommes des gens sérieux, est-ce que je m'énerve moi? Oui, bien sûr, je comprends, ce sont des incapables. Alors directement, je vous passe le responsable. Allô, j'ai sous les yeux votre dossier complet. Je crois comprendre que vous n'êtes pas satisfait. C'est pourtant si facile, entre gens raisonnables. Mais il faut que je file, je vous passe le responsable. Allô, c'est encore vous? Que voulez-vous encore? Pour s'entendre surtout, ne crions pas si fort. Toujours votre même histoire, vous n'êtes pas très aimable. L'erreur vient du standard, je vous passe le responsable. Allô, je vous écoute, c'est pour un renseignement? C'est facile, je doute qu'il y en ait pour bien longtemps. Seulement, vous le donnez, je n'en suis pas capable. Un instant, patientez, je vous passe le responsable. Allô, comment c'est grave? Coincé depuis hier soir, dans l'escalier de la cave, les clés dans mon tiroir, comment l'avez-vous su?
Oh, celui de ce je suis impardonnable. En sa demeure, où le sujet
monsieur,
se représente
le responsable. Oui, monsieur. Oui, j'arrive. Avec les clés.
Se tenir à hauteur d'apocalypse, oui, c'est-à-dire de se donner les moyens de penser, de faire l'épreuve, avant même de penser, peut-être, de penser conceptuellement, de faire l'épreuve de ce phénomène, de ce moment de menace et d'autodestruction. Inhérente à toute manifestation, à toute apparition, à toute existence. Alors, la logique du fantôme, le fantomal, c'est ce que va finalement produire la nature lorsqu'elle va, en quelque sorte, faire l'épreuve de ses propres limites ou de sa propre menace. C'est-à-dire lorsqu'elle va faire l'épreuve de ce fait physique, en quelque sorte, naturel, qu'elle est vouée à
fondamentale, il s'agirait de se faire se toucher ces lieux, ces paroles.
Oui, voilà, c'est ça. Il s'agirait qu'en allant jusqu'au bout du désastre, jusqu'au bout du ciel noir de l'existence, vers, je ne sais pas, peut-être vers un certain dehors, il surgirait un temps solaire de la joie où le soleil rayonne dans 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 le soleil rayonne
dans le soleil rayonne dans le
soleil rayonne dans le soleil rayonne dans le soleil rayonne dans le soleil rayonne dans le soleil rayonne dans le soleil rayonne dans le soleil rayonne dans le soleil rayonne dans le soleil rayonne dans le soleil rayonne dans le soleil rayonne dans le soleil rayonne dans le soleil rayonne dans le soleil rayonne dans le soleil.
C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas d'elle-même infiniment survivre à sa propre destruction. Elle va inventer la technique. La technique n'est pas tout simplement un mode de production parallèle à la nature, mais c'est d'abord et avant tout un déplacement que produit la nature pour se créer son propre lieu de survivance.
Dans le ciel, dans la légèreté de son triomphe. Alors cette clarté solaire, elle est
des solaires, avec un long soulier noir. Adieu. Avec le Parti communiste et un bas filet. Adieu. Avec 6 poils noirs à la verrue de ton sein. Adieu. Avec ta vieille robe et une longue barbe noire autour du vagin. Adieu. Avec ton gros ventre affaissé, avec ta crâne d'Hitler, avec ta bouche de mauvaise historiette, avec tes doigts de mandoline pourrie, avec tes bras de large véranda à Patterson, avec ton ventre de grève et de cheminée d'usine, avec ton menton de Trotsky et de guerre d'Espagne, avec ta voix chantant pour les ouvriers épuisés, pourrissant. Avec ton nez de mauvaise baiseuse, avec ton nez d'odeur de cornichon de New York.
D'une certaine forme de langage qui appartient au juste milieu et qui est complètement caduque et étroit, qui sont les conversations que j'entends quand je suis dehors dans les terrasses de... aux histoires d'amour. Aux feuilles d'impôt. Il s'agirait d'aller dans l'excès de la joie bleue, la joie solaire, ou alors l'excès de désespoir. Les deux pôles sont opposés, mais ils peuvent se rejoindre.
Avec tes yeux de Russie, avec tes yeux de manque d'argent, avec tes yeux de fausse porcelaine de Chine, avec tes yeux de Tandélanor, avec tes yeux d'Inde, famélique. Avec tes yeux pissants dans le parc. Avec tes yeux d'Amérique qui ressent sa chute. Avec tes yeux d'échec devant le piano. Avec tes yeux de parents en Californie. Avec tes yeux de Marennais mourant dans une ambulance. Avec tes yeux de Tchécoslovaquie attaqué par les robots. Avec tes yeux qui vont à un cours du soir de peinture au Bronx.
Avec tes yeux un temps solaire.
De meurtrière grand-mère que tu vois sur l'escalier de secours à l'horizon.
Le soleil rayonne dans le ciel.
Avec tes yeux sortant toute nue, courant et hurlant dans le corridor. Avec tes yeux emmenés par les flics dans une ambulance.
Quelle est sa lumière?
Avec tes yeux ligotés sur la table d'opération. Avec tes yeux de pancréas amputés, avec tes yeux d'appendicite, avec tes yeux d'avortement, avec tes yeux d'ovaires enlevés, avec tes yeux d'électrochoc,
avec tes yeux de lobotomie. Le ciel qui est comme de l'eau, c'est ça surtout. Le ciel remue comme de l'eau.
C'est comme si finalement, là aussi, dans ce que tu dis, quand tu dis le ciel remue comme de l'eau, on a une conjonction. On a une conjonction d'éléments. On a l'élément air, l'élément eau, et ces deux éléments, là, sont... D'ailleurs, souvent, ces éléments se rejoignent, un nuage, finalement, c'est ça, mais le nuage, c'est passager. Alors que toi, tu voudrais intensifier peut-être ces moments de rencontre, par exemple là, en l'occurrence, la rencontre de l'élément eau
Oui, c'est ça. Une rencontre entre deux amants, quoi, un homme et une femme, puisque l'eau qui remue comme du ciel et l'évolution intérieure du monde et des rapports amoureux. C'est-à-dire que l'amour envisagé aujourd'hui, d'ailleurs il n'y a même plus d'amour, c'est fini. Il s'agit de réinventer la notion amoureuse entre deux amants à l'aube.
De ces approximations.
En fait, il est impossible de séparer la relation amoureuse des éléments eux-mêmes.
Voilà, c'est ça. Il est impossible de séparer la relation amoureuse de l'évolution intérieure du monde, universelle.
Alors que nous, aujourd'hui, au contraire, on voudrait couper ça. Par exemple, réduire la relation d'un homme et une femme à un contrat, à un calcul d'intérêt, comme s'il n'y avait plus de monde.
Ou alors une simple baisse banale.
Une baisse banale, effectivement, qui est une espèce de réduction.
Le matin, il faut se lever tous les jours à la même heure.
Les amants. Même que l'eau rejoint la pluie dans un espace
de café. Moment, prenez le même trajet tous les jours pour aller à la gare.
Parce que vous
éprouvez. Et arriver à la gare.
Les amants.
Monter les escaliers. Ouais. Monter dans le train. Et puis et vous arrivez.
C'est-à-dire que.
Vous rentrez par la même porte tous les jours.
Va en fait trouver sa culminance
tous les jours.
C'est-à-dire que plus les degrés de chaleur montent, plus l'évolution monte jusqu'à sa culminante. Plus l'évolution monte jusqu'à sa culminante, plus l'évolution, plus l'évolution,
on revient,
plus l'évolution,
on rentre chez soi,
plus l'évolution,
on mange,
plus l'évolution,
on va se coucher,
plus l'évolution,
alors, c'est toujours
plus l'évolution.
D'ailleurs, je trouve ça ridicule, moi.
Plus l'évolution.
Je pense que moi, je fais 24 heures par jour, parce que on fait 9 heures par jour, c'est vrai, mais le restant des heures. On s'en sert pour dormir, or on dort pour aller travailler. Or c'est pareil, ça c'est du travail.
Ouais,
je pense qu'il a raison.
La moitié de l'année, les heures de liberté sont dans la nuit, mais tous les matins, c'est la hantise du retard.
Les peuples vont
un très beau texte,
vont être la
très beau texte de Duras, qui dit, un texte que vous avez trouvé dans Écrire, je voudrais demander aux gens qui liront ces lignes de m'aider à un projet que j'ai depuis 3 ans, depuis l'annonce de la fermeture des usines Renault à Billancourt. Il s'agirait de consigner les noms et prénoms de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont passé leur existence entière dans cette usine nationale de renommée mondiale. Cela depuis le début du siècle, depuis la fondation des usines Renault à Boulogne-Billancourt. Ce serait une liste exhaustive, sans commentaire aucun. Vous devrez atteindre le chiffre d'une grande capitale. Aucun texte ne pourrait contrebalancer ce fait du chiffre, du travail chez Renault, la peine totale, la vie.
Peut-être même est-ce même, je ne sais pas. 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 Peut-être même, la cette même, je ne sais pas. Peut-être même, la cette même, je ne sais pas. Peut-être même, la cette même, je ne sais pas. Peut-être même, est-ce par cette ombre qu'il communique.
Oui, moi je ne vois pas trop d'ombre, tellement c'est bleu et solaire. Peut-être qu'ils l'ont été, ils ont eu cette ombre dans un autre temps, qui est le temps noir, le temps de la déchirure, effectivement. Le temps de la déchirure, effectivement, oui. Le temps de la déchirure, effectivement, oui. Le temps de la déchirure, effectivement, oui. Le temps de la déchirure, où ils se sont déchirés eux-mêmes, où ils ne savaient plus où ils en étaient. Peut-être qu'ils se réincarnent dans ce temps solaire. Avant, il y a eu le temps de l'existence du temps noir. C'est peut-être les deux mêmes.
Alors, on peut lever l'ombre ou pas, alors, de ce que tu dis?
On peut lever l'ombre, oui. On peut lever l'ombre, oui.